Vous écoutez
RMC.
Vous avez choisi RMC la radio, RMC Story la télé pour vous réveiller. On en est très heureux, il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. En cas de guerre, la France doit accepter de perdre ses enfants. Les mots chocs et polémiques du général Mandon, plus haut gradé français. Une semaine après la mort de son frère Amine Kessassi, appelle les Marseillais à descendre massivement dans la rue samedi contre les narcotrafiquants. Ne pas céder à la peur, il sera votre invité Apolline ce matin à 8h30. La plainte collective pour concurrence déloyale déposée par des milliers de commerçants contre Chine.
La mise en garde du chef d'état-major des armées.
Un mois, souvenez-vous, après avoir réclamé à l'armée française de se tenir prête en cas de choc dans 3 ou 4 ans face à la Russie, le général Mandon a réitéré mardi des propos inquiétants. Devant les maires de France réunis en congrès, il appelle les élus à préparer la population au futur conflit.
Ce qu'il nous manque, c'est la force d'âme pour accepter de nous faire mal pour protéger ce que l'on est. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque.
Et la prise de parole du général largement dénoncée, Jean-Luc Mélenchon exprime son profond désaccord. Fabien Roussel évoque lui un discours va-t-en-guerre insupportable. Réaction également dans les rangs de l'extrême droite. Le reportage de Rachel Sadodine.
Côté insoumis, le message est clair. Fabien Mandon doit être rappelé à l'ordre. Député de Seine-Saint-Denis, Bastien Lachaud est membre de la Commission de la Défense Nationale et des Armées.
Le chef d'état-major des armées a outrepassé ses fonctions. Il est indispensable qu'aujourd'hui, le président de la République le fasse taire. Le rôle d'un chef d'état-major, ce n'est pas d'affoler la population. Le Parlement est le seul habilité à déclarer et à voter la guerre.
Même position à l'autre bout de l'échiquier politique, le vice-président du RN, Sébastien Chenu, dénonce une faute. Seule la Macronie soutient donc les propos du général Mandon, le député Ensemble pour la République, Pierre-Alexandre Anglade.
C'est le rôle du chef d'état-major des armées de dire quelle est la réalité de la menace qui pèse aujourd'hui. Nous ne vivons plus dans un temps qui est un temps banal, classique, et où le tragique revient, on le voit en Ukraine, et la France est aussi ciblée par les ingérences et la pression exercée par la Russie de Vladimir Poutine.
Le mois dernier déjà, le chef d'état-major des armées avait pris à partie les députés de la commission de défense de l'Assemblée nationale, les appelant à se préparer à un choc dans 3 ou 4 ans face à la Russie.
Le général Trinquant sera avec nous à 7h40, aussi sur le fond, pour savoir si effectivement il y aura ce choc et s'il faut s'y préparer. Mais d'ici là, c'est vous que j'ai envie d'entendre. Appelez-nous au 3216. Est-ce que vous êtes prêt, comme le dit le chef d'état-major des armées, à prendre le risque de perdre des enfants? Est-ce qu'il faut en arriver là? Je vous attends au 3216.
Et à ce propos, c'est à partir d'aujourd'hui que vous pourrez retrouver le guide de survie en cas de guerre ou de catastrophe naturelle, non pas dans votre boîte aux lettres, comme promis l'an dernier par le gouvernement, mais sur les sites du gouvernement. À Marseille, les ministres de l'Intérieur et de la Justice vont rencontrer la famille Kessassi en début d'après-midi. C'est une information que vous révélez RMC hier. Déplacement de Gérald Darmanin et Laurent Nunez à la demande d'Emmanuel Macron une semaine après l'assassinat dit d'avertissement de Mehdi Kessassi, 20 ans, frère d'Amine Kessassi, militant engagé contre le narco-banditisme. Sur France 2, hier soir, il a appelé le gouvernement à l'action et les Français à ne pas céder aux narcotrafiquants.
La République a été testée. Oui, je vis un drame terrible. Je ne sais pas si demain je pourrai me relever. Je ne sais pas comment ma famille va se tenir après ça. Ne lâchons rien. Et cette fois, allons au bout des choses. Menons le véritable combat dans la lutte contre le narcotrafic. Ce samedi, il y a une mobilisation sur le rond-point où a été assassiné mon frère à 15h. Si on veut garantir ma protection, si on veut garantir la protection de celles et ceux qui se lèvent, il va falloir qu'on soit des milliers à porter cette voix parce qu'on ne pourra pas tuer tout un peuple et on ne pourra pas tuer toute une nation.
Amine Kessassi qui parle avec l'énergie évidemment du désespoir, du combat en disant « si je ne parle pas, je meurs ». Il sera sans filtre, en direct, à 8h30, mon invité sur RMC.
Emmanuel Macron, lui, se rendra à Marseille mi-décembre. Le chef de l'État qui ciblait les consommateurs de drogue mardi a fustigé hier les bourgeois des centres-villes qui financent parfois, dit-il, le narcotrafic. Nouvelle pièce dans la machine de la culpabilité, choix de l'exécutif, quand d'autres préfèrent alerter sur les dangers de la drogue. C'est le cas à Clermont-Ferrand, une ville où le trafic prend de l'ampleur et la mairie d'agir, Vincent Chevalier, avec une campagne de communication inédite placardée dans les rues de la ville.
Seulement trois mots, la drogue tue, et juste en dessous, une ligne blanche qui devient rouge, une communication efficace, selon Pauline.
Le rouge du sang et puis le blanc de la drogue, c'est simple, c'est percutant.
Une action couplée à des opérations de sensibilisation dans les écoles, pourquoi pas, même si ça ne suffira pas, d'après Solène.
C'est bien de faire de la prévention auprès des enfants ou dans les collèges, mais il n'y a pas que ça. Si la drogue, elle circule, c'est qu'elle est déjà là.
Sylvain a déjà pris des stupéfiants, surtout du cannabis, et pour lui, c'est clair, ça ne sert à rien de cibler les consommateurs.
Ils ont leur semaine de boulot, ils ont leur soirée, ils ont envie de passer un bon moment. Ils y vont, quoi. À un moment, ils vont pas se poser de questions. Est-ce que j'alimente quelqu'un qui fait du mal à d'autres ? Ils s'en foutent, les gens.
Cette culpabilisation des clients est inutile si l'État n'apporte pas de solution à ces dépendances, explique Georges Brousse, chef du service d'addictologie au CHU de Clermont-Ferrand.
La prévention, le dépistage, la recherche pour les traitements. Il n'y a aujourd'hui pas de traitement accessible pour le trouble d'usage de cocaïne. Développer des structures de soins qui prennent en charge à la fois les addictions et les pathologies mentales.
Dans la ville, le trafic de drogue a fait au moins 5 morts depuis le début de l'année.
Le trafic de drogue qui sévit également dans les Antilles, sans lien établi à 7h, on a appris qu'un jeune garçon de 5 ans était entre la vie et la mort ce matin en Martinique, blessé dans une fusillade sur le territoire du Lamentin. Il se trouvait à l'arrière d'un véhicule à bord duquel un homme a été tué. 2 euros, c'est le montant de la taxe sur les petits colis votée hier à l'Assemblée nationale dans le cadre de l'examen du budget. S'il venait à être adopté, la somme récoltée servirait à financer les dispositifs de contrôle de ces produits envoyés par les plateformes extra-européennes. Parmi elles, Chine. Après le gouvernement, le site chinois se retrouve dans le collimateur d'une coalition de commerçants et d'industriels. Victor Joannin, 12 fédérations s'unissent pour attaquer et demander réparation des préjudices à Chine en justice, accusée de concurrence déloyale.
Oui, cette coalition de commerçants accuse Chine de ne pas respecter les règles du jeu. La plateforme a déjà été condamnée, notamment pour pratiques commerciales trompeuses, et elle livre des produits non conformes, rappelle le directeur général de l'Alliance du commerce, Yuan Petiot.
Le fait pour Chine de ne pas respecter ces règles a permis à la plateforme d'agir avec une concurrence déloyale qui a porté tort à l'ensemble de notre tissu économique. Et c'est aujourd'hui ça dont nous demandons la réparation en justice.
Cette procédure est complexe et prendra du temps, un an et demi au minimum, selon l'avocat spécialiste en droit commercial, Adrien Debacker.
Il ne suffit pas de démontrer que le concurrent, et en l'occurrence chez n'a pas respecté les règles. Encore faut-il rapprocher un préjudice qui serait lié au non-respect de ces règles. Et donc là-dessus, il va falloir le démontrer et convaincre le juge à la fois de la faute, mais également du préjudice lié à cette faute pour le concurrent.
Chine n'a pas tardé à réagir. Selon la plateforme, cette initiative des commerçants s'apparente davantage à une tentative de boycott qu'à une démarche juridique sérieuse.
Un plan de paix envoyé par les États-Unis à l'Ukraine, pas forcément à l'avantage de Kiev. Il prévoit la cession de territoire à la Russie, le renoncement à ses armes longue portée, la réduction de son armée de moitié. Et puis un nouveau trophée individuel pour un joueur du PSG.
Achraf Hakimi.
Achraf Hakimi, sacré meilleur joueur africain. C'était hier soir à Rabat, finaliste l'an dernier. Le défenseur marocain du PSG décroche ce titre pour la toute première fois de sa carrière.
C'était le journal de Thibaut Texer. 7h08, vous êtes nombreux à réagir à ces propos du chef d'état-major des armées qui dit qu'il faut accepter le risque de perdre ses enfants et que sinon nous sommes battus d'avance en quelque sorte face au choc qui vient. Olivier qui nous appelle d'Aubervilliers. Bonjour Olivier.
Bonjour Apolline, bonjour à toute l'équipe.
Olivier, vous-même vous travaillez je crois dans la cybersécurité. Est-ce que vous êtes choqué par les propos du chef d'état-major des armées ou est-ce que sur le fond vous vous dites qu'il a raison ?
Alors je suis pas choqué, moi en fait j'ai fait 27 ans dans l'armée, j'ai 4 enfants et sur mes 4 enfants j'ai 3 fils. Sur les 3 j'en ai déjà un qui est dans l'armée et j'ai les deux autres qui veulent suivre la même voie. Moi, ça me choque pas, mais je pense que personne n'est prêt à perdre l'un de ses enfants. Je pense qu'en 14-18, en 39-45, même tous les militaires qui sont morts en opération, les familles n'étaient pas prêtes. Je pense qu'il a, il a la clarté de dire les choses, de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Et surtout, les politiques n'auraient jamais le courage de dire ce qu'il a dit. Que ce soit dès qu'on a pendant entendu parler à LFI et RN, je pense qu'ils ont, autre chose à faire en ce moment. Mais, sincèrement, on est dans une situation géopolitique qui est compliquée, qui est dure, et en fait, il a le mérite de dire les choses. Est-ce que c'est à lui de le dire ou pas ? Je pense qu'il n'y a aucun texte qui l'interdit de dire.
En fait, je trouve très intéressant ce que vous dites, Olivier, parce qu'au fond, depuis que ces propos ont été rendus publics, depuis hier après-midi, en gros, toutes les réactions politiques, c'est de dire « Oh là là, scandale, il ne devrait pas dire ça, c'est un va-t-en-guerre ». Mais au fond, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas est-ce qu'il doit dire ça ou pas, c'est est-ce que sur le fond, il a raison. C'est-à-dire, est-ce que sur le fond, attention, il dit pas on va perdre nos enfants. Il faut être très précis. Il dit, si nous n'acceptons pas ce risque, alors on a perdu d'avance. Parce que alors nos ennemis qui nous regardent, qui nous écoutent, se disent que de toute façon, ils peuvent en gros envahir la Pologne, que de toute façon, on bougera pas un petit doigt. C'est exactement ça qu'il dit. Olivier, vos enfants, quand ils se sont engagés, quand ils décident de s'engager dans l'armée, comme vous, vous l'avez fait, ils pensent à ça, ils pensent au risque, ils se disent, je vais donner ma vie s'il le faut.
Ça fait partie des discussions que j'ai avec chacun d'entre eux quand ils prennent cette décision et je leur explique ce que c'est. Je leur explique que c'est pas simplement un travail, c'est vraiment un investissement. C'est, et quand je leur demande pourquoi ils le font, ils ont des propos qui sont cohérents. Ils disent qu'ils font ça pour la France, ils font ça pour le pays parce qu'il y a encore des valeurs qu'ils veulent défendre. Ils veulent défendre le peuple français. Donc merci. Oui, ils sont vraiment, ils savent ce qu'ils font en connaissance de cause. Ça m'arrive pas forcément parce que je l'ai fait aussi. Mais voilà, c'est un risque à accepter.
Merci beaucoup. Merci Olivier pour votre témoignage. Venez aussi réagir à ce que disait Olivier. Olivier qui nous appelait donc au 32-16 depuis la Seine-Saint-Denis à Aubervilliers. Il est 7h11.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
C'est un pays où la guerre contre le narcotrafic a fait 450 000 morts en 20 ans. Le Mexique. La France est-elle en train de devenir le Mexique? Bonjour Frédéric Saliba.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, ancien correspondant au Mexique. Votre regard est particulièrement intéressant parce qu'on entend ce mot désormais, la mexicanisation du narcotrafic en France. La mexicanisation, vous savez, vous, ce que c'est. Vous allez pouvoir nous le dire dans un instant. À tout de suite. Il est 7h11.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h15 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. La France est-elle en voie de mexicanisation? Bonjour Frédéric Saliba.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, ancien correspondant du journal Le Monde au Mexique. Vous étiez installé à Mexico quand la guerre contre les narcos a été lancée par le gouvernement mexicain. Résultat, 450 000 morts en 20 ans. Depuis l'assassinat de Mehdi Kessassi, le frère du militant antidrogue Amin Kessassi, on a franchi un cap. C'est un assassinat de bascule, d'intimidation, de terreur. Voilà ce que disent le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice. Est-ce qu'en effet, c'est un tournant et est-ce que ça vous rappelle le début de cette guerre des gangs?
En tout cas, il y a une impression de déjà-vu, ça c'est clair, au Mexique, mais pas qu'au Mexique, en Colombie, en Équateur, au Guatemala. Vous avez comme ça des assassinats d'avertissement, d'intimidation, c'est-à-dire que des proches qui n'ont absolument rien à voir avec le narcotrafic ou avec la lutte contre le narcotrafic sont pris pour cible. Et tout simplement parce que on est, à mon avis, dans une phase de cartélisation en France, c'est-à-dire que les groupes criminels auxquels on a affaire sont en train de se structurer. Les enjeux deviennent beaucoup plus importants pour eux, et d'ailleurs on le voit. Pourquoi? Parce que la consommation explose, cocaïne mais pas que, drogue de synthèse aussi, et qu'on parle de milliards d'euros. Et donc en fait les enjeux sont énormes, et c'est vrai qu'Amin Kessassi est un acteur que je trouve très intéressant à Marseille, c'est-à-dire qu'il porte une voix très intéressante où il appelle le gouvernement à avoir une gestion beaucoup plus globale, une stratégie beaucoup plus globale que seulement le répressif. Et surtout, il appelle à s'attaquer au caïd, en fait, au chef de ces réseaux.
Donc il dérange.
Évidemment, il dérange. Et puisqu'il dérange, quand on vise le frère d'Amin Kessassi, on ne vise pas que la famille Kessassi. On vise tous les activistes qui sont des gens dans les quartiers un peu difficiles et qui portent une autre voix, qui sont un lien, en fait. Et puis, on vise aussi le pacte social qu'on peut avoir entre nous.
En fait, on demande à tout le monde de se taire.
Oui, c'est l'omerta, en fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Et la peur, en fait, est un vecteur incroyable de silence. Et c'est vrai que si on se tait, et moi j'attendais beaucoup les déclarations d'Amin Kessassi, je suis assez soulagé d'avoir vu sa tribune dans Le Monde et puis ses entretiens ce matin.
Il sera en direct à 8h30, mon invité, tout à l'heure.
Voilà, sa parole est très importante. Et se taire, à mon avis, est la pire des choses. Au Mexique, par exemple, dès qu'il y a des menaces contre des journalistes ou contre des activistes, on a tendance à les appeler à faire des déclarations.
Pour précisément montrer qu'ils ne s'avouent pas vaincus. Maintenant, la question quand même, une fois qu'on a dit ça, c'est qu'est-ce qui s'est passé au Mexique? C'est-à-dire que ces avertissements, ces intimidations, et puis une forme de guerre qui a été lancée par le gouvernement, par l'État, contre les cartels. Avec quel résultat?
Écoutez, c'est catastrophique, vous l'avez dit, 450 000 morts, plus d'ailleurs, plus de 100 000 disparus, hein, ce qu'il faut ajouter. C'est à peu près entre 20 et 30...
Des charniers, quand des disparus, ce sont des charniers. C'est-à-dire que c'est désormais, partout sur le territoire mexicain, des familles, des gens qui ont disparu, qui ont été assassinés.
Non, c'est très dur. Il faut avoir l'estomac bien accroché quand on est journaliste et qu'on se retrouve avec 25 morts des charniers, 25 cadavres. Il y a une amplitude comme ça énorme, on n'en est pas là en France. Mais c'est vrai quand même qu'au Mexique, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait un président de la République, Felipe Calderón, en 2006, très mal élu, manque de légitimité, et qui s'est appuyé sur l'armée, qui a déployé l'armée. Il a déployé 50 000 militaires sur le territoire, le conflit s'est embrasé, les narcotrafiquants se sont armés. Et en fait, il y a eu une militarisation de ce conflit, sans qu'il y ait toute une politique sociale, toute une politique éducative, sanitaire, qui accompagnerait.
Au fond, il faut les deux bras, j'allais dire, de ce combat, c'est-à-dire il faut quand même à un moment qu'il y ait du répressif, mais s'il n'y a pas cet accompagnement social, d'ailleurs ce que fait Amine Kessassi dans les quartiers, ça ne marche pas.
Oui, et puis il faut rajouter aussi tout ce qui est renseignement financier, parce que le blanchiment d'argent, c'est le nerf de la guerre, hein, c'est l'argent. Donc il faut associer, en effet, le répressif ne suffit pas, et au Mexique, ils ont fait tout ce qu'en gros, il ne faut pas faire.
Je voudrais vous poser une dernière question parce que j'ai senti quand on a préparé cette interview que vous avez aussi projeté une crainte sur les municipales. Disant au fond, on arrive dans des périodes électorales et il faut savoir que désormais dans les territoires, les élus vont recevoir des pressions, des menaces.
Il n'y a pas de narcotrafic sans corruption. Et je dirais même qu'il n'y a pas de narcotrafic de grande ampleur qu'en Amérique latine sans narcopolitique. Et donc, en fait, il y a une pression qui va être très très forte sur les élus. Pourquoi ? Parce que les organisations liées au narcotrafic ont besoin d'une emprise locale. Et les municipales sont vraiment le moment clé. Donc, en fait, il risque d'avoir des pressions sur les candidats. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au Mexique, on n'en est plus là. Et qu'aujourd'hui, en fait, les cartels de la drogue placent directement leurs hommes sur les listes électorales, voire des cousins de narcos deviennent maires. Et à partir du moment où le verre est dans la pomme, je peux vous dire que c'est très difficile de soigner une démocratie.
Il est donc minuit moins une. Merci Frédéric Saliba, ancien correspondant du journal Le Monde au Mexique. Vous avez publié l'an dernier ce livre « Cartel, voyage au pays des narcos » aux éditions du Rocher. Une plongée dans les mafias mexicaines. Merci de votre éclairage.
Merci. Il est 7h20.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il est 7h20 sur RMC. L'historien d'Apolline Matin vient de rentrer dans ce studio. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Mais qu'est-ce qui se passe ? La semaine dernière, vous nous parliez de nostalgique de Pétain. Et ce matin, vous nous parlez de nostalgique de Franco, le général dictateur espagnol, avec des Français qui voudraient lui rendre hommage.
Et oui, c'est la saison. Une association veut saluer sa mémoire. Le régime de Franco a pourtant fait des milliers de morts, avec une répression sans pitié et un état policier criminel.
Et puis il y a Arnaud Demange qui arrive pour pirater le face-à-face. Mon invité ce matin, vous l'avez compris, c'est Amine Kessassi. Ne bougez pas, on se retrouve dans 60 secondes sur RMC, 7h21.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h22, vous êtes bien sur RMC et à la télé sur RMC Story. C'est l'heure de remonter le temps. Avec Arthur Chevalier, notre historien du matin. Arthur, la semaine dernière, vous nous parliez de la messe en hommage à Philippe Pétain. Et alors voilà que cette semaine, vous nous dites qu'il y a une autre messe d'hommage, de nostalgique du général Franco. C'est prévu à la fin du mois à Paris.
Oui, une messe organisée par une association franco-espagnole qui se revendique nationaliste. Cette commémoration a lieu à l'occasion des 50 ans de la mort de Franco. La date exacte de sa mort, c'est d'ailleurs aujourd'hui. Et c'est un élu parisien communiste, Yann Brossat, qui s'est indigné de cet événement.
Alors Franco a été un personnage extrêmement sulfureux.
Ah oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire à Pauline. Franco arrive sur le devant de la scène au début des années 1930. À cette époque, l'Espagne est une république, mais en 1936, des militaires font un coup d'État. La République ne se laisse pas faire, tout ça dégénère en guerre civile. Deux camps vont s'affronter, d'un côté des socialistes et des communistes, de l'autre des nationalistes et des fascistes. Le général Franco était un des militaires nationalistes. Ce conflit sanguinaire fera plus de 200 000 morts.
Terrible conflit. Qui va gagner cette guerre civile ?
Alors, en 1936, c'est finalement les nationalistes qui remportent la mise. Et l'homme qui s'impose, c'est Franco. Il instaure un régime autoritaire en s'appuyant sur l'armée et la religion catholique. Bon, clairement, c'était une dictature avec un parti unique, très classique.
Et lui, c'était quel genre de dictateur, si je puis poser la question ainsi ?
Alors, c'était un homme assez inclassable et mystérieux. Franco avait une intelligence politique supérieure, il parlait peu, vivait de façon assez sobre, en tout cas pour un dictateur, et passait son temps à travailler. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Franco est certes allié de Mussolini et de Hitler, mais il réussit à garder ses distances, en tout cas assez pour leur survivre, puisque en 1945, les Américains le maintiennent à la tête de l'Espagne. Pour eux, Franco était un rempart contre le communisme. Il restera au pouvoir jusqu'à sa mort en 1975. C'est tout simplement le dernier dirigeant fasciste de l'Europe de l'Ouest.
L'Espagne est restée une dictature tout le temps de Franco.
Oui, qu'on soit clair, hein, c'était un état policier. On arrêtait et on tuait par milliers. Et une des spécialités de ce régime, c'était de retirer les enfants aux parents qui étaient des opposants politiques. Les gosses étaient ensuite placés dans des établissements catholiques payés par le régime.
Quel souvenir a laissé Franco en Espagne ?
Alors ça c'est mitigé, hein. 21% des Espagnols considèrent aujourd'hui que les années de la dictature ont été bonnes. 65% jugent au contraire qu'elles ont été mauvaises. Donc il faut relativiser un peu le souvenir de Franco. Mais la nouveauté, c'est quand même le regain de popularité de Franco chez les jeunes, puisqu'ils voient ces années comme un moment où il y avait de l'ordre et où tout fonctionnait, ce qui évidemment est un fantasme total, hein. Sous Franco, l'Espagne était un des pays les plus pauvres d'Europe. Rien ne fonctionnait. Le pays était aussi très isolé et les gens vivaient dans la terreur.
Merci Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Et on accueille tout de suite Arnaud Demange.
RMC.
Demange Pirate, le face-à-face.
Salut Arnaud.
Et bonjour.
Arnaud dans le face-à-face sur RMC et BFM TV. Tout à l'heure, je reçois le militant marseillais anti-drogue qui vient de perdre son frère assassiné, Amine Kessassi.
Oui, en trois jours, on est passé de Patrick Sébastien dans le face-à-face à Amine Kessassi, avec dehors les températures ont baissé, ici aussi. Hein. Alors Amine Kessassi promet de continuer son combat contre le narcotrafic après l'assassinat de son frère. Il a déclaré « Je ne me tairai pas ». C'est une preuve de courage absolument incroyable. Déjà, être contre le narcotrafic à Marseille, c'est un peu comme être végétarien au Pays Basque, si vous voulez. C'est compliqué, c'est mal vu, c'est comme ouvrir un cercle d'alcooliques anonymes en Bretagne. Bonjour, je m'appelle Erwan et je suis alcoolique. Ouais, et alors ? Ça te pose problème ? Je dois admettre que je n'ai pas 1% de ce courage. Lui, il vient à la radio pour faire face à des narcotrafiquants. Moi, hier, j'étais au restaurant, j'ai commandé du poulet, on m'a servi du poisson. Le serveur était un peu costaud, j'ai dit
« Merci ».
Je ne suis pas au même niveau de courage. Dans le trafic de drogue, la responsabilité du consommateur est un sujet de débat. La drogue, on le rappelle, c'est comme les fringues de Chine, c'est de la merde, il ne faut pas en prendre. Moi, j'en ai jamais pris parce que j'ai très vite compris qu'il fallait que je protège mes neurones. Je ne pourrais pas compter sur mon physique. Je suis l'inverse de Jean-Claude Van Damme. Est-ce qu'il faut dépénaliser ou légaliser la drogue comme c'est déjà le cas en Hollande, au Portugal ou dans le monde du cinéma? On me dit dans l'oreillette que c'est pas légal dans le monde du cinéma. Ce serait bien de les prévenir parce qu'ils sont pas au courant visiblement. Hier, ici même, Louis Sarkozy préconisait donc de dépénaliser, de prendre le problème sous l'angle médical du combat contre l'addiction, ce qui est une approche qu'on n'a pas en France, alors qu'on peut comprendre que d'aller se piquer avec une seringue usagée à la colline du Crac sous la pluie au mois de novembre, personne le fait par plaisir. C'est pas pour le fun. Si vous proposez à un ami, t'as envie d'aller à Disney ou t'as envie de claquer 400 balles dans une dose d'héroïne coupée au Ariel Ultra dans une salle de shoot du 15e avec des gens qui hurlent, et que cette personne vous répond, je prendrais bien l'héroïne entre les deux choix, c'est quelqu'un qui ne va pas bien. Il faut le soigner. Et alors, autre effet très intéressant de la légalisation, dépénalisation, dont on parle jamais, c'est que ça ouvre la porte à ce que j'appellerais la daronisation du produit.
Ah oui.
Tu trouves que fumer du shit, c'est cool? Eh ben, attends que ton père débarque en soirée avec un joint en faisant « Alors les Jones, wesh, on kiffe. Ça vous dirait pas de méfu un petit tarpé en écoutant du Maître Gims? Bon bah là, c'est terminé, t'as plus envie de fumer de ta vie. La prévention est assurée. » Voilà, ne loupez pas cette interview capitale d'Amine Kessassi à 8h30.
Arnaud Demange, qu'on retrouve tout à l'heure, dans un instant, la météo et le journal de 7h30, et puis vos réactions au propos du chef d'état-major des armées. Faut-il accepter l'idée de perdre nos enfants pour la France? 7h28. 7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal d'Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Des patients lâchés par leur chauffeur de taxi, contraints de renoncer au transport sanitaire à cause de la nouvelle tarification de l'assurance maladie. C'est le choix de la rédaction ce matin. Une semaine après l'assassinat de Mehdi Kessassi, les ministres de l'Intérieur et de la Justice se rendent à Marseille pour tenter d'apporter des réponses sur la lutte contre le narco-banditisme. Et puis c'est un chiffre en hausse publié ce matin. Chaque jour en France, plus de 3 femmes sont victimes de féminicide conjugal. Le transport sanitaire est-il menacé en France ?
Les taxis avaient prévenu à coups de grandes manifestations au printemps. Ils n'ont pas été entendus et il semblerait qu'ils avaient raison. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la nouvelle tarification de l'assurance maladie, entrée en vigueur au 1er novembre, se fait déjà ressentir car le manque à gagner est trop important pour certains chauffeurs contraints de renoncer. Et forcément, Martin Bourdin, ça a des conséquences sur les patients.
Oui, par exemple, pour la petite Clémence que je suis allé rencontrer en région parisienne, elle a 6 ans, elle est atteinte de trisomie 21 et pour grandir le plus normalement possible, elle doit être prise en charge dans des centres de rééducation 2 jours par semaine. Jusque-là, elle faisait ses trajets seule en taxi sanitaire, mais au début du mois, les deux chauffeurs annoncent à la famille qu'ils arrêtent. Jessica, la maman, doit donc prendre le relais. Elle assure tant bien que mal avec son mari les trajets sur l'une des journées et pour la seconde, eh bien, elle a réussi à s'arranger avec un chauffeur.
On a négocié pour prendre en charge le manque à gagner qu'avait le taxi. Alors ça, normalement, c'est interdit. Mais dans la solution transitoire, il a bien voulu accepter le taxi. On est démunis, on n'a pas de solution, on n'a pas de plan B. Ou alors, elle ne va pas en rééducation. Et ça, c'est pas une option.
Elle paye donc, vous l'avez entendu, directement à ce chauffeur 30 euros à chaque aller-retour parce que ce taxi, comme beaucoup d'autres, un peu partout en France d'ailleurs, estime que les nouveaux tarifs d'indemnisation le fait travailler à perdre jusqu'à 40% de chiffre d'affaires en moins, explique Dominique Buisson de la Fédération Nationale des Taxis.
Aujourd'hui, il y en a déjà qui ont licencié pour essayer de sauver l'entreprise. Aujourd'hui, on emmène 60 000 taxis à la mort.
Et de son côté, l'assurance maladie et le ministère de la Santé dénoncent une carence organisée des transports. D'après eux, ces nouveaux tarifs permettent aussi à certains taxis d'être mieux rémunérés qu'avant.
Une enquête signée Martin Bourdin en direct pour RMC ce matin. Il est 7h33 et Marseille endeuillée s'apprête à recevoir la visite des ministres de la Justice et de l'Intérieur. Gérald Darmanin et Laurent Nunez dépêchés sur place par le président lui-même avec au programme notamment, RMC vous le révélait dès hier soir, une rencontre avec la famille du jeune Mehdi Kessassi assassiné la semaine dernière, Hélène Terzion.
Oui, une rencontre hors presse avec cette famille qui vient d'enterrer Mehdi, 20 ans, tué par balle en pleine rue à Marseille. C'est le deuxième frère assassiné du militant Amine Kessassi, engagé contre le narcobanditisme. Pour afficher la détermination de l'exécutif contre le narcotrafic, les ministres de l'Intérieur et de la Justice rencontreront enquêteurs, policiers spécialisés, le maire de Marseille aussi, Benoît Payan, qui regrette la suppression du poste de préfet de police de plein exercice comme à Paris. Mais on ne peut pas dire que rien n'a été fait, martèle un proche de Laurent Nunez. À Marseille, l'an dernier, le nombre d'homicides liés au narcotrafic a été divisé par 2. Résultat attribué par son entourage aux actions menées ces dernières années, du plan Marseille en grand aux opérations Place Net.
Et ne manquez pas ce matin à 8h30 sur RMC l'interview exceptionnelle du militant Amine Kessassi au micro d'Apolline de Malherbe. C'est un chiffre absolument glaçant qui vient d'être publié ce matin. Toutes les 7 heures en France, une femme est tuée par son conjoint ou ex-conjoint. Un chiffre qui nous vient de la mission interministérielle pour la protection des femmes et qui est en hausse, Romain Hougue.
Oui, chaque jour, ce sont 3 femmes qui sont victimes de féminicides ou de tentatives de féminicides. Et on parle là seulement des féminicides conjugaux, c'est-à-dire au sein du couple. L'an passé, 107 femmes ont ainsi été victimes de féminicides conjugaux, 270 de tentatives de féminicides et 906 femmes victimes de harcèlement de leur conjoint ou ex-conjoint ayant conduit au suicide ou à une tentative de suicide, ce qui porte le total de femmes victimes à 1283, une hausse de plus de 7% sur un an. Et puis, il y a les autres formes de violence avec des chiffres tout aussi sidérants. En France, toutes les deux minutes, une femme est victime de viol, tentative de viol ou d'agression sexuelle, et toutes les 23 secondes, une femme subit du harcèlement sexuel, de l'exhibition sexuelle ou reçoit du contenu à caractère sexuel non sollicité. Le rapport souligne qu'une fois de plus, les filles et les femmes sont restées les cibles quasi exclusives de violences sexistes et sexuelles, et ceci à tout âge et dans toutes les sphères de la vie personnelle et sociale.
Les précisions de Romain Hougue pour RMC. Il est 7h35 et les appétits de la Russie ne semblent pas être freinés par les États-Unis. En témoigne ce plan de paix de l'administration Trump dévoilé hier par un média américain qui prévoirait notamment que l'Ukraine cède plusieurs de ses territoires à Moscou et qu'elle réduise son armée de moitié. C'est dans ce contexte qu'en France, le gouvernement publie ce midi un guide de survie à destination donc des Français. Il sera mis en ligne sur les sites des différents ministères. Un document de 30 pages baptisé « Tous responsables » qui détaille les bonnes pratiques à adopter en cas de crise. Vous l'avez consulté pour RMC, Cassandre Brault.
Oui, il vous invite d'abord à préparer votre kit d'urgence, eau potable, trousse de premier secours, une radio, mais aussi une pochette étanche avec la copie des papiers d'identité et d'assurance. Toute une liste de produits essentiels à vérifier tous les ans. Utile si vous vous retrouvez bloqué chez vous en cas de route coupée ou s'il n'y a plus d'électricité. Dans ce guide, il y a aussi des informations pédagogiques, des gestes à adopter. Par exemple, en cas d'inondation, ne pas prendre sa voiture. En cas de feu de forêt, boucher les évacuations d'air et les bas de porte. Mais aussi comment réagir en cas d'accident nucléaire, de menace sanitaire ou de menaces terroristes, de quoi préparer les citoyens à toute éventualité, selon le commandant Éric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France.
Ça permet de jeter des premières bases, et c'est déjà extrêmement important, pour commencer à avoir une démarche, on va dire, de culture, de protection civile, de protection de sa famille.
Enfin, le gouvernement veut inciter les citoyens à rejoindre les rangs des réservistes, des volontaires ou des associations de sécurité civile pour assurer la sécurité de la nation et pour affronter les événements dus au changement climatique.
Heureusement, il y a quelques nouvelles réjouissantes aujourd'hui.
Beaujolais !
C'est l'arrivée du Beaujolais nouveau et comme le veut la tradition, les premiers tonneaux ont été percés hier soir place des Terreaux à Lyon. Un Beaujolais de belle qualité selon ses producteurs, mais en moindre quantité cette année.
Et puis le quintet, Élise, 13h55 sur l'hippodrome de Vincennes.
Et voici le prono de la Dream Team des courses RMC. Le favori aujourd'hui, c'est le numéro 10, Power Doc. L'outsider, c'est le 4, LA Boco.
C'était le journal d'Élise d'Angers, 7h37 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il faut accepter de perdre nos enfants, de souffrir économiquement. Propos choc du plus haut gradé de l'armée française, le chef d'état-major des armées, le général Fabien Mandon. Bonjour général Dominique Trinquant.
Bonjour,
merci d'être dans ce studio avec nous ce matin. Vous êtes l'ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Est-ce que la France et les Français sont prêts? Est-ce qu'ils doivent se tenir prêts? Est-ce qu'il faut craindre en effet un choc? Un choc dans lequel nous perdrions nos enfants. Je vous pose la question dans un instant et vos réactions, bien sûr, au 32-16. Venez interpeller le général et témoigner. Il est 7h38.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h42 sur RMC la radio, sur RMC Story, la télé. Il faut accepter de perdre nos enfants. Les propos choc du chef d'état-major des armées. Bonjour général Dominique Trinquant.
Bonjour.
Vous êtes l'ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Vous avez publié D'un monde à l'autre aux éditions Robert Laffont. On y est. D'un monde à l'autre, parce qu'il faut accepter de perdre nos enfants, de souffrir économiquement. Il faut en parler dans vos communes. Voilà les propos chocs du chef d'état-major hier lorsqu'il était devant les maires de France. Est-ce qu'il a raison?
Alors, ce sont des propos chocs qui réveillent. On a peut-être besoin d'être éveillé. J'eus préféré, dans les termes, dire non pas accepter de mourir, mais accepter de combattre. On ne va pas à la guerre, mais les soldats ne vont certainement pas à la guerre pour mourir, ils vont pour combattre et gagner. C'est le caractère des citoyens qui est visé. C'est la structure de notre société.
Il faut écouter précisément et en longueur, j'allais dire, les propos du chef d'état-major des armées. Il dit, attention, je dis pas qu'il y a des chars russes qui vont arriver par l'Alsace. Il dit même, nous avons tout ce dont nous avons besoin en termes de matériel, en termes d'armée. Ce qui nous manque, dit-il, et ce que nos ennemis doivent voir, c'est notre force d'âme. C'est qu'au fond, s'ils nous savent courageux, ils n'envahiront pas.
Exactement, c'est la force d'âme, et je cite toujours Thucydide, qui dit que la défense de la cité ne repose ni sur les murailles, ni sur les vaisseaux, mais sur le caractère des citoyens. Et c'est cette force d'âme qu'il faut réveiller, il ne faut pas avoir peur, je cite Jean-Paul II, n'ayez pas peur, il faut absolument être fort, parce que quand vous êtes fort, vous êtes dissuasif, lorsque vous êtes faible, vous êtes vulnérable. Et j'ai lu il n'y a pas très longtemps un rapport de l'Institut Montaigne, extrêmement bien fait, qui donne des options et qui termine par des options d'attaque dans les pays baltes, mais qui dit avant que c'est la guerre asymétrique qui est lancée. Et il faut gagner cette guerre asymétrique, parce que si nous la gagnons...
C'est quoi la guerre asymétrique?
Ça veut dire l'information, la désinformation, le cyber, la crainte qui s'installe. Vous voyez l'attentat qu'il y a eu il n'y a pas longtemps en Pologne sur les voies de chemin de fer. Voir qu'on est vulnérable sur notre territoire fait qu'on baisse les bras, et à ce moment-là, ça encourage l'adversaire à aller plus loin.
On va accueillir Christian qui nous appelle au 32-16 du Tarn. Bonjour Christian.
Bonjour.
Christian,
bonjour,
vous êtes un ancien militaire. Dites-nous précisément, oui, comment vous avez réagi quand vous avez entendu les propos du chef d'état-major des armées?
Mais moi, ça ne me choque pas, parce que en tant que militaire, on sait très bien que quand on part en OPEX ou des TO, on prend des risques. Mmh. En France, il n'y a plus de conscrits, donc ce sont que des professionnels. Donc, on sait très bien qu'on prend des risques.
Ça veut dire, quand vous dites on est des professionnels, ça veut dire aussi que peut-être le mot choisi par le chef d'état-major des armées, quand il dit à perdre nos enfants, au fond, voilà, si je vous entends bien, vous auriez plutôt dit à perdre nos soldats.
Voilà, parce qu'on ne va pas appeler des conscrits des gamins de 18 ans pour aller se battre. Mmh.
Ce ne sera pas nos enfants.
Nous avons une armée de professionnels et ce sont des professionnels qui vont agir. Et nous sommes relativement bien formés en France, contrairement à d'autres pays.
Mais ça veut dire, Christian, que vous, quand vous étiez militaire,
oui,
vous vous disiez, je suis prêt à mourir.
Oui. Mmh. Moi, je suis allé en OPEC, j'ai fait des TO.
Des théâtres d'opération.
Oui, pardon. Quand on part, on sait qu'on prend des risques.
On sait qu'on prend des risques. Christian, restez avec nous. Je voudrais justement qu'on puisse poursuivre avec le général Trinquant. Général, est-ce que vous pensez que les Français sont prêts?
Je pense qu'il y a besoin de les motiver régulièrement. Parce qu'il y a des contre-propagandes qui sont faites. J'en écoutais, disait c'est scandaleux, on ne doit pas dire ça.
Il faut d'ailleurs être précis, c'est-à-dire que moi c'est ce qui m'étonne depuis hier soir, c'est qu'au lieu de réagir au fond des propos du chef d'état-major des armées, c'est une agitation de la classe politique pour dire « Ah là là, il ne faut pas dire ça !» Comme si cette fameuse idée de l'imbécile regarde le doigt au lieu de regarder la lune. C'est-à-dire que là, on s'intéresse uniquement à l'émetteur. Est-ce qu'il faut qu'il le dise? Est-ce qu'il ne faut pas qu'il le dise? Est-ce que c'est un va-t-en-guerre? Il ne s'agit pas d'une déclaration de guerre.
Non, il ne s'agit absolument pas d'une déclaration de guerre. Il s'agit d'une préparation à ce qu'on appelle la résistance, la résilience, si vous voulez, de la société française. Il faut bien voir que les soldats, et on en entendait un tout de suite, les soldats sont prêts à combattre. Combattre, ça veut dire aller jusqu'à donner sa vie. C'est une chose, mais l'armée, elle est issue de la nation. Ces soldats, ils étaient des citoyens. Ceux qui s'engagent aujourd'hui, et il y en a 25 000 par an qui s'engagent, ce sont des citoyens qui décident de s'engager pour leur pays. Et moi, je suis surpris de voir que la jeunesse française, on regardait des sondages il n'y a pas très longtemps, 60% des moins de 35 ans étaient prêts à s'engager pour défendre leur pays.
Donc, 65% même, effectivement, qui précisent et qui disent être prêts.
Voilà, donc vous savez, on voit toujours le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Moi, je le vois toujours à moitié plein, c'est-à-dire qu'on a une jeunesse qui est prête à s'engager. Et il ne faut pas renouveler les erreurs que nous avons connues dans les années 38-39, où à force de baisser les bras, eh ben on a un dictateur qui est allé plus loin, chaque fois plus loin, parce qu'on baissait les bras.
Parce qu'on baissait les bras, et cette question aussi, et je voudrais préciser les termes qu'a dit le chef d'état-major des armées, il dit, je ne vous parle pas de chars qui arriveraient et qui traverseraient l'Alsace. Non, il dit, ce n'est pas du tout de ce choc-là dont je vous parle à propos de 3 ou 4 ans d'ici. Il dit, c'est un mécanisme de solidarité. Si les Russes savent que nous ne sommes pas prêts à nous battre, alors ils pourraient envahir la Pologne en se disant, de toute façon, personne ne bougera.
Et singulièrement, ce qui est intéressant, c'est que la propagande russe, la propagande du Kremlin, attaque spécifiquement la France. Pourquoi ? Parce que la France dispose de l'arme nucléaire. Or, la dissuasion, ça repose sur la volonté des citoyens avant tout. Et on voit bien que c'est ce caractère des citoyens qu'il faut attaquer pour dire, vous voyez, ils ne se défendront pas.
Thucydide, le caractère des citoyens. Christian, vous diriez quoi aux jeunes qui nous écoutent ? Vous leur diriez, oui, on peut s'engager, allez-y.
Oui, on peut et on devrait s'engager. Vous savez, depuis l'an 2000, il y a 226 soldats qui sont décédés pour servir la France. Cette année, il y a 58 militaires qui sont tombés pour la France, mais on le fait avec honneur, courage, parce que on est là pour défendre notre patrie et plus on sera nombreux, mieux on sera défendu.
Merci beaucoup Christian d'avoir témoigné au 32-16. Un dernier mot, Dominique Trinquant, sur ce guide qui a été publié hier. Ce guide, il s'appelle « Tous responsables ». Il veut préparer les esprits en cas de crise majeure. Alors oui, à un conflit potentiellement, mais aussi à des inondations, à un problème écologique. Est-ce que vous estimez que c'est utile ?
Oui, c'est utile parce que nos citoyens, j'avais dit, vivent dans le ronron, considèrent qu'ils peuvent aller au magasin demain, il n'y a pas de problème. Et une crise arrive, et ben ils ne sont pas préparés, ils n'ont pas de réserve. Et comme vous le dites, c'est pas seulement pour la guerre, hein, c'est pour tout type de crise, y compris les crises écologiques, on le voit bien. Une inondation, ben, il n'y a plus d'eau potable. Ben, si on a 2 litres d'eau potable en réserve, ça peut servir. Donc c'est utile pour préparer à des situations extraordinaires les citoyens qui vivent dans une situation ordinaire.
Au fond, c'est toujours la même question, c'est qu'effectivement, il vaut mieux anticiper pour précisément que la situation n'arrive pas. Je vous invite à regarder ce guide, il sera mis en ligne par le gouvernement à la mi-journée. Les recommandations, c'est notamment une trousse de premier secours, une radio à pile, parce qu'il faut pouvoir continuer à écouter RMC, de l'eau potable, des conserves, de la nourriture pour les animaux, tout préparé effectivement chez soi pour parer à toute éventualité. Merci, Général.
Merci,
Général
Pauline.
Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Et merci à Christian pour son témoignage. Comme lui, vous nous appelez au 32-16, 7h50.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans 2 minutes, la voix de gauche sur RMC. Cécile Duflot vient d'entrer dans ce studio. Bonjour Cécile.
Bonjour Apolline.
Marseille, la lutte contre le trafic de drogue. Les ministres se déplacent aujourd'hui. Mais au fond, pour vous, c'est plutôt les militants de terrain qu'il faut écouter.
Oui, je pense que là, il y en a marre de tous ces déplacements ministériels. Et puis, le président bientôt. Ça fait des années maintenant que les militants de terrain se battent, proposent des solutions. Il faut les écouter, eux.
À tout de suite.
RMC. Apolline Matin.
Dans un instant, Cécile Duflot. Mais d'abord, le bonus, Mathieu, avec une conversation entre Harry Potter et Harry Potter.
Oui, quand Harry rencontre Harry. On reparle ce matin de la série événement que prépare la plateforme HBO Max après la saga de films. Place à plusieurs saisons d'Harry Potter. Il y aura donc plusieurs générations de petits magiciens de l'école des sorciers. Et entre générations, il y a de la communication. Daniel Radcliffe a aujourd'hui 36 ans. C'est lui qui incarnait Harry dans les films. Et il a écrit une lettre à Dominic McLaughlin, jeune préado écossais qui va lui succéder dans le rôle. J'espère que tu passeras un très bon moment. Encore meilleur que le mien, lui dit l'aîné. C'est juste un petit mot pour l'encourager, l'acteur qui se dit attendri par cette nouvelle génération qui arrive à l'écran. J'ai juste envie de leur faire un câlin. Ils ont l'air si jeunes. Je les regarde et je me dis, oh, c'est dingue d'avoir fait tout ça à cet âge. Mais dans l'interview où il révèle l'échange entre les différents Harry Potter, Daniel Radcliffe confirme surtout qu'il ne sera pas de ce nouveau projet. La production veut une coupure nette et même lui ne veut pas être un fantôme, une ombre dans le sillage de ses enfants. La série Harry Potter, soyez patients, fera ses grands débuts courant 2027.
RMC, Apolline Matin.
Voix de gauche.
Voix de droite.
7h53 sur RMC et RMC Story. Voix de gauche ce matin, puisqu'on est jeudi. Cécile Duflot est avec nous. Bonjour Cécile.
Bonjour Apolline.
Il y a les ministres de l'Intérieur et de la Justice qui seront à Marseille tout à l'heure. Il y a le président de la République qui sera à Marseille dans 15 jours. Ils vont rencontrer la famille de Mehdi Kessassi, le frère du militant marseillais anti-drogue. Cécile, est-ce que ces visites politiques ont encore un intérêt ?
Je crois que ça commence à bien faire en fait. Ça fait des années maintenant que ça devient presque une mode. Ça a commencé beaucoup avec Nicolas Sarkozy, mais ensuite Guéant, Hortefeux. Manuel Valls, quand il était ministre de l'Intérieur, il a fait 10 visites en 1 an et demi à Marseille. Et ensuite, bah, on se souvient évidemment d'Emmanuel Macron et de Marseille en grand.
Marseille en grand, ça veut dire que ça ne sert à rien.
Bah, ça veut dire que justement à ce moment-là, ce qui était d'ailleurs très ambigu parce que c'était aussi un lancement de campagne, il y avait des belles images sur fond de vieux port. Enfin, Marseille est vraiment utilisé comme un outil de communication et comme un décor. Mais à ce moment-là, il faut se souvenir que Amine Kessassi avait déjà parlé à Emmanuel Macron.
Il avait déjà parlé, il l'avait déjà alerté, on va y revenir, mais il y a eu quand même des opérations, ce qu'on appelait les opérations Place Nette.
Oui, alors ça c'est quand même, là aussi, une histoire de communication, parce que les opérations Place Nette, ça s'est fait à grand renfort d'alerte sur les médias. On pourrait imaginer faire ce type d'opération, mais sans avoir besoin d'appeler la télévision, la radio et tout le monde pour mettre en lumière cette action. Et on se souvient très bien que lors d'une opération Place Nette, la Provence avait publié un article pour dire que 24 heures après, tout était redevenu comme avant, il y a eu des pressions politiques pour faire virer le directeur de la rédaction. Donc on voit bien que derrière tout ça, il y a quand même beaucoup de communication et c'est très dommage.
Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que l'État est impuissant, on ne fait rien ?
Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que je pense que le travail contre le narcotrafic, c'est un travail dans la durée, qui a besoin de moyens, qui n'a pas forcément d'ailleurs besoin de beaucoup d'esbrouf et besoin de beaucoup de communication, mais que surtout, il faut écouter les acteurs de terrain. Je l'ai dit, Amine Kessassi avait parlé en 2021 à Emmanuel Macron. Il avait dit qu'il fallait une vraie police de proximité, une présence quotidienne sur le terrain, qu'il fallait une coopération internationale et une efficacité beaucoup plus large. Et puis surtout cette phrase, je veux citer sa phrase à lui, une phrase de 2021. Tant qu'on n'éradiquera pas cette misère, on n'éradiquera pas le trafic de drogue. Donc voilà, je pense qu'il faut moins de com et plus d'action, faire confiance aux gens qui savent et qui connaissent le terrain. Et surtout, je voudrais dire une chose, il y a un discours qui, et j'ai bien peur que ce soit encore ça, qui dit mais il faut les mettre plus en prison, il faut mettre en prison les jeunes plus jeunes, sauf qu'on bute sur un énorme os, et tous les acteurs de terrain là aussi le savent. Quand vous mettez un jeune très jeune à la prison des Baumettes, bah, il va être encore plus dans les mains des narcotrafiquants. Donc il faut vraiment donner des moyens aussi à tous ceux qui accompagnent les jeunes pour qu'ils ne tombent pas dans les griffes du narcotrafic.
Merci Cécile. Cécile Duflot, la voix de gauche sur RMC. À 8h30, le témoignage sans filtre, en direct, d'Amine Kessassi qui sera face à moi sur RMC et BFM TV. Il est 7h56, dans un instant précisément à la une du journal de 8h, ce sera un reportage sur le terrain à Marseille. Comment les Marseillais réagissent à ce premier acte de terreur. Et puis la météo, du froid et des giboulées. Et juste après le journal, il y aura Emmanuel Le Chypre. On va parler du prix des voitures électriques. Emmanuel.
Mais oui, une bonne nouvelle pour Cécile Duflot. Le marché de l'occasion des voitures électriques est en train de décoller.
Et vous nous le dites dans un instant. Il est 7h56.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.